papou dans la tête.
Groovy.
Bonjour, c'est la récré avec les papous de France Culture. À l'affiche, l'inventaire des blocages répulsifs suite à un traumatisme enfantin. Et puis une histoire de musicien de SMS et la textée de Patrick Beignet pour Clémentine Mélois et Patrice Minet.
Comme tu es sorti, mon petit Minet... Oui, je parle pas de moi.
Non, mais quand même.
Comme tu es sorti, mon petit Minet, voici le raton qui sort pour danser.
Ah. Alors les deux sont très proches, effectivement.
Autant Minet l'est moins.
Ah, il est moins.
Bien sûr, moi, tout de suite.
Eh oui,
viendra le temps de la chronique quand un papou lit un autre papou, d'écouter Dracula se plaindre de son sort et de jouer au bourrimé et à l'heure critique avec Jacques Jouet et Gérard Mordillat pour un premier couple de rimes.
Le voici, le voilà, Jacques Vallée, Machiavel, haut de Javel.
Oh, ça c'est bien.
C'est vraiment parfait.
Non, on avait besoin d'un prénom féminin.
D'où vous viennent ces idées, Jacques Vallée?
C'est l'alcool.
Il y en a là-dedans.
Françoise Tressard et la belle équipe vous souhaitent un joli dimanche papou jusqu'à 13h58. Merci de votre fidélité à nos jeux et un grand salut à ceux qui rejoignent la bande des auditeurs. Un numéro des papous à podcaster sur franceculture.fr. Et pour les échanges, rendez-vous sur notre page Facebook ou à la rubrique commentaires des papous du jour. Janvier, le temps des inventaires pour solde de tout compte. Inventaire collectif avec Sophie Divry, Jacques Vallée, Patrice Delbourg, Jean-Bernard Pouy, Eva Almassy et Jacques Jouet. Alors après la liste des fées, sorcières, aimées, craintes ou haïes, personnages réels ou de fiction, nous passons à un autre sujet choisi par Patrice Delbourg. Suite à un traumatisme ou choc émotionnel lors de vos jeunes années, vous faites un blocage répulsif devant certains aliments, boissons, éléments d'habillement, lectures, films, comédiens ou chanteurs. Racontez, ça vous évitera un passage par la case psychanalyse. Et comme c'est son sujet, c'est Patrice qui attaque.
Eh bien, lors de ma courte enfance à la campagne, j'ai eu un lapin. Il s'appelait Jérémy. Il était blanc, il avait un museau rose qui palpitait à la moindre contrariété. Avec des grandes oreilles qui se vrillaient aussi en cas de danger.
Oui.
Il a été écrasé par un chauffard sur la nationale qui conduisait à Bellac.
Ah oui.
En 53. Depuis, la vision de cette viande filasse et molle qui se détache autour des os pointus me dégoûte. Je n'ai jamais touché un lapin dans mon assiette, même en civet, même avec de la moutarde, même avec de l'estragon. Et des pleurotes.
Oh, pauvre Patrick, je crois mais qu'il y a un autre lapin.
J'ai aussi un lapin, mais c'est plutôt en 52, celui-là. Je suis à l'école maternelle. Oui. Ma mère est en retard pour venir me chercher. Je panique. On me donne une image qui représente un lapin qui joue de la trompette. Depuis ce temps-là, il m'est tout à fait impossible de manger du lapin en écoutant de Haydn le fameux concerto pour trompette.
Jacques Vallée.
Ah, les tripes. Les tripes et moi, nous avons fait connaissance dans un collège. Lors de la récréation du matin, une odeur infecte, insupportable, a envahi la cour. Quand nous sommes arrivés au réfectoire, l'odeur était tellement suffocante qu'il a fallu ouvrir tout grand les fenêtres pendant le repas. Ce jour-là, on nous servait des tripes. Pour moi, la première... Et la dernière fois que j'en ai eu dans mon assiette.
Oui, ça, je vous comprends, hein, Sophie Divry.
Oh, les tripes. Oh, les tripes. La lyonnaise gratine, c'est pour
impossible même de flairer
l'odeur. Toute l'odeur, il faut qu'elle
soit. Quand c'est bien cuisiné, il n'y a pas
le
d'odeur.
Le gras double.
Le gras double, t'es habillé de sapeur.
Vous avez fait un bad trip, alors. J'en sais rien ce que c'était.
Sophie Divry.
Je fais un blocage répulsif sur le vin blanc.
Ah
depuis,
bon
depuis l'âge de 18 ans. J'en buvais à la rencontre de trois contraintes. La première, c'était les heures de visite de l'internat du lycée du Parc, soit entre 21 et 22 heures, quand je rendais visite à mes copines là-bas. La deuxième, c'est qu'on était fauchés, on avait 10 euros pour acheter trois bouteilles. Avec un budget pareil en ville, je vous laisse imaginer la nature du vin et de l'épicerie où on pouvait l'acheter. Alors, il fallait le plus vite possible boire ce vin issu de raisins d'origine européenne. Hein. On rigolait bien, mais ces séances de fast drinking sont suivies depuis 20 ans d'une longue abstinence. Mais heureusement, il y a le vin rouge.
Vous êtes révolté, Jean-Bernard Puy, vous qui aimez tant le vin blanc.
Oui, mais non, moi, c'est le tapioca, moi, de mon enfance, là.
Ah, la purée.
Dans la soupe.
Ah oui, c'est pas bon, ça.
Et aussi sous forme d'ersatz de riz au lait. J'avais déjà du mal à l'avaler jusqu'au moment où ma sœur l'a appelé des yeux de grenouille. Là, ça s'est arrêté net, c'était fini. Et plus jamais. Sauf maintenant où, dans un plat brésilien, on mange de la farofa, qui est du manioc, donc du tapioca grillé. Ça n'a pas du tout le même goût, ça n'a pas du tout la même apparence, donc ça va.
Bon, Jacques Jouy, une allergie culinaire non?
Les traumatismes enfantins, c'est pas difficile à trouver, vous savez.
Oui.
Là, c'est en 53, là. Mon père, tout d'un coup, a une lubie de type Bouvard et Pécuchet. Le voilà devenu macrobiotique. Il faut mâcher des grains de blé germés. Dès qu'il a le dos tourné, mon frère et moi, on avale ça tout rond. Malheureusement, le lendemain matin, il contrôle nos selles.
Oh non.
Et les grains de blé sont piqués dans l'étron qui ressemble un peu à un épi de maïs. Je ne peux plus voir un grain de blé en peinture.
C'est quoi cette enfance?
C'est authentique.
Eva. Quand j'étais petite, en Hongrie, on ramassait des escargots dits de Bourgogne. En Hongrie, près de Budapest, qu'on exportait pour la France.
Oui.
Alors, j'avais une belle opinion des Français. J'aimais pas ça, quand même, les ramasser pour l'exportation. Et puis aussi, ben, le foie gras, quand il est droit, même si c'est marqué Made in France, le plus souvent, ça vient de Hongrie. Parce que c'est là qu'on fait du gavage d'oie. Mais tout ça, c'est un traumatisme qui ne m'a pas dissuadé d'aimer le foie gras.
Et les tripes d'escargot, c'est très bon.
Jean-Bernard Puy.
Les slips de bain en laine.
Ah. Oh, il y a une très jolie photo de Jacques Jouy.
Oui, mais
c'est trop, là.
Slip
là, vous
de bain
trop
en laine, oui, tricoté par sa maman.
C'est vrai que... C'est très doux, c'est chaud, c'est tricoté par la maman, donc c'est très agréable. Mais alors mouillé, bien sûr, ça pendouille lamentablement et ça se mélange aux chaussettes.
Mais c'est une aberration. Qui avait lancé cette mode?
Mais non, c'est que les mamans tricotaient.
Bah oui, tricotaient.
Moi, je vous parle d'un temps que...
Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Ça vous irrite à vie, hein?
Patrice.
Jadis, lors de mon interminable enfance dans le Limousin, donc près de la Souterraine, cette enfance longue, fadasse, un petit peu. Mes grands-mères, enfin, ma grand-mère et ma tante, plus exactement, m'emmenaient tous les jours à 5 heures chez leur copine Kakoshim pour l'insupportable cérémonie du thé. Alors elle rigolait, c'est un effet de notre bonté qu'elle me faisait, déjà du calembour à moi. Depuis je hais le thé, je vomis le thé, ce pissa saumâtre pour douairière chlorotique. Mais, en chanson, j'aime bien Souchong.
Sophie.
J'ai une répulsion pour le whisky depuis qu'une amie m'a battue au Scrabble en l'opposant sur lettre compte triple.
Jacques Jouy, un traumatisme enfantin.
Ce n'est pas précisément un traumatisme enfantin, non. Mais depuis que j'ai entendu pour la première fois Hervé Le Tellier essayer de chanter l'air de la Reine de la Nuit au Papou, il m'est tout à fait impossible de réentendre la flûte enchantée.
Je comprends. Ouais.
Eva.
Bah, moi, c'est le lait, parce que, sauf incorporé dans les gâteaux ou même dans le riz au lait que j'adore, je ne digère pas le lait. Et c'est intéressant pour une raison. On vient de découvrir que pour l'évolution de la tolérance au lactose, on étudie justement les restes des hommes préhistoriques de la grande plaine de la Hongrie. C'est là que 5000 ans avant notre ère, les mutations sont survenues dans l'ADN humain, en parallèle avec les progrès de l'élevage des bovins. Et moi, hongroise, je ne digère quand même pas le lait, alors que j'ai tous ces milliers d'années derrière vous.
Oh, oui, c'est étrange, oui. Ça, un rapport au lait aussi. Un rapport
Oui, j'ai une histoire de lait également. Savez-vous pourquoi je déteste les bérets basques?
Non.
Un jour, à l'école, pendant que l'institutrice faisait l'appel, j'ai vomi dans mon béret.
Oh.
On avait bu un godet de lait chaud, suivant les injonctions de qui? De Pierre Madès France.
Et il y avait de la peau sur le lait, non?
Moi, je déteste les ampoules électriques. Et je charge les autres d'en acheter, toujours. Depuis que très jeune, j'ai confondu, chez moi, une ampoule à vis avec une ampoule à baïonnette. J'ai fait sauter les plombs du compteur. Et mon père m'avait alors dit, ce qui est toujours resté, « Tu es aussi con qu'un jeune chien ». Depuis, je peux pas.
C'est pas franchement méchant en même temps.
C'est pas méchant, mais c'est complètement traumatisant.
Ah, mon adolescence mollassonne là-bas, au bord de la gare Tante. Je m'étais plongé un jour dans la résolution d'une grille de mots croisés et le Merlan en avait profité pour me raser la boule à zéro. À la tondeuse à gazon, s'il vous plaît. C'était il y a longtemps, mais le choc émotif demeure fort. Ah, cette haleine fétide dans la nuque, ces petits propos mensongers sur les longueurs et pointes, ces coups de ciseaux subreptices à votre insu, tandis que vous cherchez une définition, un guet-apens. Depuis, jamais je n'ai remis les pieds chez un coiffeur.
Ça se voit.
Un peu plus sucré, un peu plus salé. Non, moi je préfère plutôt quand c'est pimenté. Un peu plus grand, un peu plus court. Non, moi je préfère plutôt y aller à pied. Un peu plus clair, un peu moins cher. Non, moi je préfère la montagne à la mer. Un peu plus blanc, un peu plus noir. Non, moi je préfère les gens qui osent y croire. Sans arrêt, quel est le bon chemin à prendre? Imaginez, et ça, vous pouvez bien comprendre.
Zaz, ni oui ni non. Une histoire tout en SMS, à coups de formules courtes, se tissent ou se défont les relations. Alors, un auditeur fidèle de la page Facebook des Papous, il s'appelle Jean-Louis Lebrun, suggère, en jouant avec les homophonies, d'appeler ce jeu S'aimer des SMS, S'aimer. C'est très joli ça. Et en plus, c'est une formule qui convient très bien à la situation imaginée par Lucas Fournier. Présentez-vous, Lucas.
Je suis Jean-Pierre.
Ouais.
J'ai oublié quelque chose à la maison, donc ma femme est là, heureusement, donc je lui envoie tout de suite un SMS.
Elle travaille pas.
Mais c'est le soir. Hein.
Ah oui, d'accord.
20h45, top urgent, help, chérie, peux-tu m'apporter mes timbales? 21h, mais si chérie, elles sont posées sur mon barreau. Dépêche-toi, on commence juste le morceau, j'en ai besoin dans 30 minutes. 21h02, chérie, je ne t'ai pas demandé des timbales, mais des cymbales. C'est le correcteur qui se trompe. On est déjà au molto vivace du premier mouvement. Alors dépêche-toi, parce qu'après l'attaque des violons de l'Allegro Maestoso, c'est à moi. 21h05. Super. Tu as 10 minutes pour arriver. Le chef Igor Choskoviec n'arrête pas de me regarder. Je me demande si la contrebasse ne m'a pas dénoncé. Si je suis pris avec le portable pendant qu'on joue, on me vire. 21h06. Bien sûr, les deux timbales. Sinon, comment je joue? 21h07, cymbales. Arrête de finasser, on est au concert, pas à l'académie. Alors rentre par les coulisses, tu les passes au papier de Sévis, lui pourra ramper jusqu'à moi dans la fosse. 21h07, au pompier de Sévis, correcteur à la con. 21h09, non, j'ai l'impression que Igor fait exprès d'accélérer le tempo. On est passé direct de l'Andante Maestoso à l'Allegro Assai. Tu arrives? 21h10, ma pauvre fille, le pompier, tu le reconnais parce qu'il a un casque sur la tête. Casque. 21h15, c'est à moi dans 15 minutes, vite. 21h16, 150 papiers? Il n'y a qu'un seul papier de Sévis, pas 150. Igor me regarde avec un air mauvais. 21h17, non idiote, ici on n'a pas de centurion romain avec des casques. On joue la 9e de Beethoven, pas Verdi. 21h18. Non, andouille, je ne suis pas à l'opéra, on est à Pleyel, là. 21h20. Opéra Pleyel en 10 minutes, en Vélib, c'est foutu. Tu l'as fait exprès, laisse tomber. 21h25. À cause de toi, je vais être viré, merci. Rentre à la maison et ne reste pas avec ces crétins de légionnaires en jupette. 22h. Bon, je m'en suis sorti. J'ai allumé une cigarette à la fin du deuxième mouvement. Du coup, la fumée a attiré le pompier. Et bing, j'ai tapé sur le casque. Jing, jing. Ça a fait cymbales. Ni vu, ni connu. Je t'appelle après le prestissimo. 24 heures. Je t'ai laissé plein de mésanges, mais pas de réponse. Tu es où? Moi, je suis rentré. 1 heure. Chérie, tu boudes? 2 heures. Je viens de faire le trajet Pleyel Opéra à Vélib. Pas de trace de toi. Tu es où? 8 heures. Ah, quand même! Tu as bu? Tu étais où? Bien sûr que je sais que les centurions romains n'avaient pas de portable. Tu me prends pour un imbécile? 8h05. Merci, c'est sympa. Tu es où? 8h10. À Rome ? Et avec qui ? 8h11. C'est qui ce centurion romain sans portable ? 9h. Tu rentres ? 11h. Pourquoi tu réponds pas ? 12h. Tout est pardonné, mon amour. 15h. Tu es là ? 18h. Tu reviens ? 20h. Pourquoi tu ne dis rien ? 24h. Rends-moi au moins mes timbales. Demain, je joue à l'opéra. Pas à Pleyel, à l'opéra.
Ah là 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 là.
Parce qu'amener deux timbales en vélib, c'est sportif. Là.
C'est tragique la vie, mais enfin, je la comprends un peu parce que je trouve que vous avez une façon un peu directe de lui parler au début. Donc, vos rapports n'étaient peut-être pas si bons.
Mais je l'appelle chérie. Je commence tous mes messages par chérie au début.
Oh non, mais imbécile.
Ça passe à Andouille.
Ça sert à ça le mariage. Après, Andouille, on peut parler comme on veut.
À se défouler.
C'est la musique aussi qui fait ça, vous savez.
Mais ça peut sauver la vie de quelqu'un, comme dans L'homme qui en savait trop de Hitchcock, où c'est le coup de cymbale qui déclenche le fusil.
Exactement.
Exactement, mais oui. Que sera, sera. Whatever will be, will be.
Kellemes vasárnapot a papukkal a fejben.
Et oui, Eva, vous écoutez des papous dans la tête sur France Culture. Et si on jouait à la textée, ce jeu si difficile mais amusant, qui consiste pour le maître du jeu, alors aujourd'hui c'est Patrick Beignet, à dicter un texte qu'il a choisi, plutôt un poème, mais à dicter avec ses mots à lui, qui inciteront deux écrivains, Clémentine Mélois et Patrice Minet, à traduire en phrases ce qu'ils comprennent de sa dictée. Pas scolaire du tout la textée, mais bien séduisante pour l'imagination. Et si la textée réussit, eh bien, les histoires de Clémentine et de Patrice seront très proches de l'original. Avant toute chose, votre feuille de route, Patrick, on peut savoir en gros de quoi il s'agit ?
Il s'agit d'un texte en vers.
Oui.
De 2 x 4 vers, autrement dit, de
8 quatrains. Ah oui, d'accord, oui.
Je les traite essentiellement 2 par 2.
Oui.
Donc pour les 2 premiers vers, s'adressant à la 2e personne du singulier à une personne absente, le poète évoque une conséquence radicale de cette absence sur le comportement d'un autre habitant de la maison.
Ah là là. Non mais quand vous aurez la phrase sous les yeux, vous comprendrez mieux.
3e et 4e vers. Dans une langue fort peu châtiée, ces 2 vers proposent une interprétation radicale de ce changement de comportement. Le 4e vers est sans doute excessif, dans son dernier mot en tout cas.
Ah oui.
Très excessif.
C'est drôle, ceux qui réagissent, c'est Eva et Jacques Jouet, alors ils ne sont pas du tout concernés par celle-là.
Les autres,
ils sont tout à fait
statufiés.
Après.
Les 5e et 6e vers, de façon un peu contradictoire, ces 2 vers montrent que les relations demeurent cordiales avec l'autre habitant de la maison. Une expression légèrement vieillotte au 6e vers. Vieillotte donc charmante. C'est pas du tout péjoratif dans ma
bouche. Ça, il ne faut pas la louper, hein.
Mais légèrement vieillotte.
Oui,
hein,
oui,
c'est
oui.
Archaïsant,
oui.
C'est pas du.
Non,
pas
vieillotte d'il y a 10 ans.
Non, un peu, non. Plus, quand
un peu pas, plus quand même.
Mais difficilement datable.
Ah, Pauline Carton.
Le 7e vers a un sens indécidable en raison de l'absence de ponctuation de tout le poème, sauf des points à la fin de chaque quatrain.
Pourquoi vous me regardez ?
Parce que vous êtes l'incarnation du point pour moi, Jacques.
Je redis que sont concernés Clémentine et Patrice Minet et qu'ils n'ont pas posé une seule question, eux.
On écoute, on attend la fin.
Oui, je n'ai pas terminé mon analyse du 7e vers. Donc, un sens indécidable en raison de l'absence de ponctuation et de la conjonction par laquelle il commence, ce 7e vers. Oui.
Ah. Conjonction, ça va, Clémentine ?
Oh bah, je vais regarder sur mon téléphone pendant la pause.
Enfin, le 1er vers fait un constat météorologique à propos d'une ville célèbre par ses jeunes femmes et ses militaires. Mais en fait, c'est une illusion.
Alors, voyez, quelle question posée !
Je ne sais pas.
Oui.
Vous voulez dire que vous êtes médusée ?
Non. Ou c'est très simple.
Oui.
Ou c'est moins simple.
Ah, voilà. Alors après, il faut s'intéresser à la psychologie de Patrick Beignet.
Voilà, c'est un insondable.
Bien, Clémentine Mélois, Patrice Minet, vous avez travaillé avec ardeur. Je vous ai trouvé enthousiaste. Hein, je me trompe ? Sur cette textée proposée par Patrick Beignet, qui était ou trop facile ou extrêmement compliquée, je ne sais pas. Alors, on va reprendre les consignes une à une, Patrick.
Dans les deux premiers vers, s'adressant à la deuxième personne du singulier à une personne absente, le poète évoque une conséquence radicale de cette absence sur le comportement d'un autre habitant de la maison.
Bon, alors ça paraît très compliqué comme ça. Vous voulez qu'on commence avec vous, Clémentine Mélois ? Comme ça, c'est fait.
Comme ça, c'est fait. Hein ? Depuis que tu es partie, le chat ne mange plus, il dépérit.
Ah voilà, ça influence le comportement d'un habitant. Hein ? On est prêt, Patrick ?
On est à 99% prêt.
Ah, formidable !
Comment a-t-elle pu tricher si bien ?
Et je suis moi-même assez proche.
C'est vrai, Patrice Minet ?
Oui.
Dites-nous.
Comme tu es sorti, mon petit Minet... Oui, je parle pas de moi.
Mais
c'est...
Non, mais quand même.
Voilà. Quand même. J'ai un petit peu forcé par les contraintes. Comme tu es sorti, mon petit Minet, voici le raton qui sort pour danser.
Ah, oh. Très très joli, oui. Alors les deux sont très proches, effectivement.
Autant Minet l'est moins.
Ah, il est moins.
Bon. Bien sûr, tout de suite. Eh oui,
après...
Dans une langue fort peu châtiée, ces deux vers, les 3 et 4, proposent une interprétation radicale de ce changement de comportement. Le vers 4 est sans doute excessif, surtout dans son dernier mot.
Mmh, Clémentine.
Ce con reste vautré toute la journée, si ça continue, je le fais piquer.
Ah là là, ça commence assez bien.
Ah oui, c'est excessif, ben, effectivement, de le faire piquer tout de suite, oui. On pourrait attendre un peu, Patrice Minet.
Moi, je suis resté sur le raton, évidemment.
Oui.
Cette saloperie vient pour parader, plus personne ici pour l'écrabouiller.
Là, on peut mieux comprendre, quand même.
Entre piquer et écrabouiller, oui.
Oui, quelque chose. Et on est toujours proche de Clémentine, Patrick.
Oui et non. Pour donner une réponse subtile. Comme Minet, il s'égare.
Bien sûr.
Au vers 5 et 6, de façon un peu contradictoire, le poète montre que les relations demeurent cordiales avec l'autre habitant. Une expression légèrement vieillotte paraît au sixième vers. Vieillotte et charmante.
Alors, on vous attend sur l'expression vieillotte.
Je lui ai acheté une nouvelle gamelle. Faute de toi, ça fera la rue Michel.
Ah oui, la rue Michel, oui. Ah, oui.
Je suis allée la chercher loin.
Clémentine et moi n'avons pas la même conception du charmant et du vieillot.
Mais c'est vieillot, c'est pas charmant. Ouais.
Mais ça le fait quand même, là. Voilà. Hein, on va voir le vieillot charmant cheminé.
Mon minou joli, fais-tu des kiss-kiss avec un autre Ramina Grobis.
Ah, j'adore.
J'avais dit vieillot, j'avais pas dit bêtasson.
Mais qu'est-ce que je vous ai fait?
Consigne suivante.
Le septième vers a un sens indécidable en raison de l'absence de ponctuation et de la conjonction par laquelle il commence.
Ah, Clémentine.
Mais où es-tu donc, Ornicard ?
Ah oui.
C'est le nom de sa femme.
Oui, d'accord. Bon, respect de la conjonction placée au début.
Et même amplification.
Oui, puisqu'il y en a plein d'autres qui suivent. Patrice Minet.
Eh bien, c'est quasiment le même vers.
Ah bon ?
C'est-à-dire que moi, je ne savais plus ce que c'était qu'une conjonction. Et puis, d'un seul coup, d'une manière fulgurante.
Une illumination.
Mais où es-tu donc, mon bel ornicard ? Ornicard, c'est le nom du chat.
Ah, incroyable.
Vous vous êtes parlé.
Ah non, on ne se parle plus.
Non, on fait nos malins, en fait.
Ça, c'est étonnant.
Bon, pour une fois, vous ne pouvez rien dire contre Patrice
non,
Minet.
Non, je le déplore. Mais...
C'est la grimace. Hein.
Il reste un huitième vers où il va certainement perdre son avantage. Ce huitième vers fait un constat météorologique à propos d'une ville célèbre par ses jeunes femmes et ses militaires. Mais en fait, c'est une illusion.
Alors, Clémentine.
Sous la pluie, à Verdun ou autre part?
Le champ des possibles est immense.
Voilà. Oui. C'est une illusion le fait qu'il pleuve à Verdun, parce que peut-être qu'il ne pleut pas en fait. Vous voyez ?
Je vois très bien.
Vous voulez dire pas plus qu'ailleurs ?
Voilà.
Ça,
Ça, c'est quelque chose à trancher.
J'ai hâte de savoir ce que c'est que la ville en question.
Ah oui, Verdun est militaire. Et le chemin des dames, je ne sais pas si...
Mais pas très loin.
Je ne sais pas si...
Mais pas très loin.
C'est
pas
ah, vous avez très bien décodé Clémentine Mélois. Ah oui, oui. Il y a une certaine indulgence de Patrick Beigny à l'égard de ce que fait Clémentine.
Mais je comprends, c'est pas de la charité, c'est vraiment, ça se défend.
Hein, et vous alors, Patrice?
Alors moi, bah, moi, ça défend moins. Sous la pluie à Nantes ou bien à Colmar.
Ah mais ça, oh, ça se ressemble bien,
ça a du charme.
C'est très étonnant.
On dirait Haïkai, Haïkou, là, oui, mais...
Oui. On ne s'est pas, concerté.
Non.
Oui, bah heureusement.
Oui, moi, je ne connaissais pas les villes de garnison, en
et
fait.
Et pourquoi Nantes et Colmar?
Bah, il pleut sur Nantes, par exemple.
Oui, oui, ça, voilà. C'est
et Colmar, oui. Pour moi, c'était... Je ne sais pas où c'est, d'ailleurs, dans l'Est.
Peut-être c'était...
Enfin, Colmar.
Draguignan ou Brest?
Le Haut-Rhin, voilà, c'est dans le Haut-Rhin. C'est plein de militaires, le Haut-Rhin.
Pas du tout. Mais les femmes sont très jolies, les colmariennes.
Voilà.
Donc, c'est la chute. On écoute vos textes sans vous interrompre. En plus, ils sont très courts, Clémentine.
Depuis que tu es partie, le chat ne mange plus, il dépérit. Ce con reste vautré toute la journée. Si ça continue, je le fais piquer. Je lui ai acheté une nouvelle gamelle. Faute de toi, ça fera la rue Michel. Mais où es-tu donc, Ornicard? Sous la pluie, à Verdun ou autre part?
Ça rime très très bien, hein, Ornicard et autre part. Ouais, c'est bien, ça,
ça fait des petites chansons. Ouais.
Oui, exactement. Alors, Patrice Minet.
Comme tu es sorti, mon petit Minet, voici le raton qui sort pour danser. Cette saloperie vient pour parader. Plus personne ici pour l'écrabouiller. Mon minou joli, fais-tu des kiss-kiss avec un autre Ramina Grobis? Mais où es-tu donc, mon bel ornicard? Sous la pluie à Nantes ou bien à Colmar?
C'est trop mignon.
Vous êtes gentil.
Ben non, non, je dis ce que je pense.
Patrice est descendu parmi nous.
Oui. Dites-nous, Patrick Beigné, c'était
écoutez,
quoi?
Il faut d'abord dire que c'était excellent tous les deux.
Ah, voilà, ça j'aime l'entendre dire, oui.
Non, je suis très étonné.
Oui.
Pas qu'ils aient été excellents, mais qu'ils se soient trouvés aussi proches du texte. C'est un poème de Macorlan.
Oui.
Le dernier poème qu'il a écrit est après la mort de sa femme. Longtemps après, d'ailleurs, mais c'est vraiment quelque chose qui est revenu. Depuis que tu es en voyage, le perroquet ne parle plus. C'est pour m'emmerder davantage qu'il ne parle plus, le cocu. Nous deux, à la porte de sa cage, nous égrenons nos souvenirs. Et sans jamais tourner la page, la pluie ruisselle sur Saint-Cyr.
Oh, c'est très mal.
Il habitait Saint-Cyr, comme vous savez, mais Saint-Cyr sur Morin.
Saint-Cyr de l'école à côté de chez moi.
Voilà, ni les demoiselles, ni les militaires, ni les Saint-Cyriens.
Il porte titre, le poème.
Il porte le nom de sa femme, Margaret Luc. Ce ne sont pas les premières strophes. Hein.
Non. Ah, il est magnifique, ce poème, en tout cas. Oui.
Mais ce qu'ils ont fait.
Aussi.
Oui, alors, j'aime pas quand le chat est trop proche du perroquet. Ça présage rien de bon.
Pour qui?
Pour le perroquet.
Un rat est venu dans ma chambre. Il a rongé la souricière. Il a arrêté la pendule et renversé le pot à bière. Je l'ai pris entre mes bras blancs. Il était chaud comme un enfant. Je l'ai bercé bien tendrement et je lui chantais doucement. Dors mon rat, mon flic, dors mon vieux Bobby. Ne siffle pas sur les quais endormis. Quand je tiendrai la main de mon chéri. Un chinois est sorti de l'ombre. Un chinois a regardé l'ombre. Sa casquette était de marine, ornée d'une encre coralline. Devant la porte de Charlie, à Penny Fields, je lui ai souri. Dans le silence de la nuit, en chuchotant, je lui ai dit: oh, je voudrais, je ne sais trop quoi. Je voudrais ne plus entendre ma voix. J'ai peur de toi, j'ai peur de moi. Emma Corlan, Germaine Montero.
Eh ben voilà, il a tout dit, et lui c'est San Severino. Quand un papou lit un autre papou, le papou lecteur du jour, c'est Gérard Mordilla. Et Gérard, c'est un bon lecteur, attentif, affectueux. Il parle très bien des livres de ses camarades de jeu. Alors Gérard, vous avez donc lu, comme bon nombre d'entre nous, le roman de Patrice Delbourg, paru en septembre au Cherche Midi éditeur, Faire Charlemagne. Racontez-nous.
Patrice Delbourg, ayant élevé l'hypocondrie au rang de la philosophie, commençons par une remarque en forme de prescription médicale, une sorte de recommandation de la faculté des lettres. Pour aimer le roman de Patrice Delbourg, Faire Charlemagne, il faut aimer les mots. Il faut avoir pour eux le palais d'un Brillat Savarin qui écrivait « Dis-moi quel mot tu manges, je te dirai qui tu es », l'appétit d'un Dumas prenant un sang d'huître avant d'attaquer un roman, l'estomac d'un Gargantua qui, avant de lire la messe, commençait par engloutir quelques dizaines de langues de bœuf fumé, de cervelas, d'andouilles et tels autres avant-coureurs de vin. Les mots, Sartre le chiche, les comptait à son lecteur, Delbourg le prodigue, les offre à poignées, à brassées, en vagues sans cesse recommencées, à l'image de son héros, professeur au lycée Charlemagne, Antonin Chapuisat, Chafouin, misanthrope, atrabilaire insurgé, contre la constipation du vocabulaire SMS sortant des téléphones de ses élèves comme des crottes de bic. Chapuisat, tonnant devant sa classe, vous vous baladez avec 100 mots dans votre vie de tous les jours. Je vous en offre 10 000. Vous devriez me remercier à genoux. Sans tomber dans ses excès, lire à genoux est mal commode et peut-être douloureux pour les ménisques, rotules et autres bourses prétibiales. Il faut remercier Patrice Delbourg du gueuleton romanesque qu'il nous sert. Des amuse-bouches lexicaux au café syntaxique, pousse-café sémantique et envolée finale. Car son Chapuisat nous enseigne tout autant qu'il tente de le faire à des boutonneux, les yeux bloqués comme des sonnettes sur la ligne bleue du bac, du fromage blanc dans leur cervelle de bisu, hostile et rétif à ses lumières. Pour Chapuisat, pétri de citations livresques, mais c'est Delbourg aussi, la littérature, c'est la vie. Et si les programmes imposent Saint-Exupéry, Malraux, Mauriac, il s'en tamponne le coquillard et sert à sa moutonnante classe Henri Béraud, auteur goncourisé pour Le Martyr de l'Obèse, Albert Parraz, Le Gala des Vaches et Valse et Saucisse, Léon Paul Fargue, Le Piéton de Paris, Marcel Aimé, Calais, Pirotte, Blondin et tant d'autres qui forment une géographie secrète que l'on parcourt page après page dans les chemins de traverse ignorés du bon goût et de la postérité. Ça ramonne, ça rue dans les brancards. C'est de la prose détergente, de la poésie acide. Les élèves gémissent, leurs parents protestent, l'administration s'émeut. Et l'on devine que Chapuisat ne sortira pas vainqueur de ce combat où le Goliath de la bourgeoisie indignée aura la peau du David de la littérature frondeuse. Il faut dire que Chapuisat n'y va pas par le dos du porte-plume. Je le cite. « Aujourd'hui, je vous parlerai donc brio de plume et humeur piquante chez quelques auteurs de premier plan. » Ou encore, je le cite toujours, « Derrière la porte à galandage, il y a un phtisique qui tousse à pierre fendre toute la sainte journée. » Voir, autre citation, « Il revêtait désormais une cuirasse en bronze d'un hoplite pour se rendre au turbin académique. »
Bah oui, c'est la richesse de vocabulaire de Patrice Delbourg, évidemment.
J'en passe et des meilleurs. Oui. Pécante, galandage, hoplite et mille autres du même calibre sont des bastos que Chapuisat tire contre les morveux et les morveuses qui lui font face et un feu d'artifice que Delbourg tire pour ses lecteurs. À chaque ligne, on a envie de crier « Oh, le bon mot ! Ah, la belle expression !» Le bouquet final étant le livre lui-même dont l'action ne sert à l'artificier qu'à mettre le feu au ciel pour éblouir ses pages. Chapuisat et Delbourg en sont d'accord. Je cite « Se moquer de plaire à autrui pour complaire seulement à ses propres envies, n'est-ce pas le début de la liberté ?» La réponse est oui. Delbourg aime nous faire aimer les auteurs qu'il aime, les rues qu'il traverse, les secrets et trésors des mots. Sa liberté, c'est la nôtre. Faire Charlemagne, c'est faire en sa compagnie l'école buissonnière de la littérature et fréquenter le lycée Papillon des lettres. Et tant pis pour le zéro de conduite, 6000 plaisirs de lecture nous récompensent.
Faire Charlemagne de Patrice Delbourg, c'est au Cherche Midi éditeur. Restons dans le roman et la fiction avec Ricardo Mosner et Odile Conseil et imaginons qu'un certain personnage ait des plaintes à adresser à l'auteur de ce jour. Il est célèbre, certes, mais son rôle ne lui plaît pas trop. Il estime que des petits aménagements s'imposent dans l'histoire qu'il porte en lui au fil des pages. Trop de ceci, pas assez de cela. Bref, à moitié satisfait, il prend la plume et écrit à son papa, Ricardo Mosner, on découvre.
Bon crépuscule, monsieur Bram Stoker, je suis Dracula. Je me permets de vous écrire.
Bon crépuscule, c'est un bon début pour une lettre.
C'est un peu bon appétit, messieurs. Non, il manque le...
Oui, bonjour.
Bon crépuscule. Ni bonjour, ni bonsoir. Mais
ouais, oui, c'est bon très joli, bon crépuscule. Ouais.
Je me permets de vous écrire, car vous croyez ou vous faites semblant de croire à cette stupide histoire des vampires. J'essayais de vous contacter par Skype... sans succès. Et vous m'expliquiez qu'on ne me voit pas parce que les gens comme moi ne passent pas à l'écran. Vous mentez honteusement, la preuve, des centaines de films circulent avec mon image. D'ailleurs, de ceci aussi faut qu'on parle. Je ne touche pas un radis, même pas une gousse d'ail de bénéfice. Mais d'abord, je vous l'écris rouge sur blanc. J'aimerais que vous écriviez une nouvelle version plus moderne sans tous ces chichis et vieilleries de carnaval. Pour commencer, les dents. C'est ridicule et incohérent du point de vue psychologique. Ces incisives me font crachoter comme un énergumène, alors mon texte est inaudible. L'autre jour, dans une soirée déguisée, un mec, un Dracula, devait enlever ses canines, des farces et attrapes pour demander une coupe ou pour parler aux filles. Puis, si on veut trouver des victimes, avec une dentition pareille, dès qu'on ouvre la bouche, tout le monde se barre. Regardez Mitterrand. Pour réussir, la première chose qu'il a fait... c'est se faire limer les crocs. J'aimerais avoir un sourire à la Patrick Devers. Après, pour la cape, c'est démodé et pas original. Souvent, les gens m'écrient « Soro est arrivé, censé presser. » Cher Bram, donc je vais te dire, crucialement, comment je vois mon look. Tu me rases les tifs, comme ça, on ne voit pas ma calvitie. Les femmes d'aujourd'hui aiment bien caresser les têtes d'œufs. Ça me permettra d'approcher leur cou plus facilement. Puis ma tignasse m'empêche d'attaquer direct. Je voudrais aussi... avoir une barbe de 3 jours à la Gainsbourg. Quelques tatouages, un ou deux piercings, et j'ai commencé à faire de la muscu. C'est fini, les minces cadavériques. Excite le romantisme, mon vieux. Je serai dans une piscine, au soleil, un double mojito à la main, et tu verras, des femelles à mordre, j'en aurai à l'appel. Je circulerai à Maserati, et pour m'amadouer, on devra m'enrouler dans des draps en soie, me masser à l'huile de calendula, et me faire écouter de la musique funk. Le truc d'enfoncer un pieu dans mon cœur décloue. C'est grotesque, personne ne gobe ça et c'est salissant. Bon, je t'envoie par Federal Express des échantillons pour mes fringues, car si je t'explique, tu ne vas rien capter. Et fais vite, parce que même si ton torchon bourré de fatracie, invraisemblable, fait pour épater les psys, personne ne l'a lu, tellement c'est long, lourd, farci abusivement des notes et d'échanges épistolaires systématiques et inutiles. Donc je disais que même si personne ne l'a lu, tout le monde a vu les films et connaît mon histoire. À laquelle tu dois t'attaquer sans plus attendre. Une nouvelle version par l'auteur de Dracula himself fera revoir ses copies au prochain réalisateur et c'est impératif pour de nouvelles adaptations. Mon avocat est en train de calculer les droits qui me reviennent selon la loi des mortels. En ajoutant les préjudices, la compensation de ma douleur, l'attente à la libre expression et le manque à gagner car on m'empêche de travailler la journée depuis plus d'un siècle. Par contre, il n'a rien à modifier concernant les morsures des jugulaires. Je continuerai avec grand plaisir. Ça, mon gars, chapeau, quelle belle trouvaille. En plus, sans ces affreuses canines, les dames vont t'adorer davantage. Allez, mon Bram, je t'embrasse. Dracula, les nouveaux princes des fulgurances, faits dans les lambes, tard la nuit.
Ah oui, c'est un beau personnage, quand même. Hein. Oui. Il a des rêves, c'est normal. peut pas toujours se contenter de son quotidien. Alors, il parle pas du tout du goût du sang. Finalement, ça lui déplaît pas tant que ça.
Non, non, ben ça, il y a des choses qu'il garde. Là,
surtout son look qu'il aime pas. Et...
Oui, toutes les choses qui sont dans son pericule, toutes les pacotilles.
Vous pensez que les femmes tomberaient plus facilement amoureuses de lui, Odile Conseil, non?
Oui, surtout s'il avait pas effectivement ses dents qui donnent le sentiment de vouloir rayer le parquet. Mais le test de Ricardo soulève une question, c'est comment parle Dracula avec ses dents qui dépassent? Est-ce que... Il faut faute.
Non, mais c'est pour ça qu'il veut. C'est pour ça qu'au début il dit qu'il veut plus.
Oui, mais comment parle-t-il?
Crache partout, il se bave, c'est dégueulasse.
Oui, ça ne doit pas être très pratique, effectivement.
Pour draguer, c'est moins bien.
Et en plus de tout, j'ai l'impression que vous êtes Bram Stoker, non?
Je ne suis pas Bram Stoker, qui n'est pas tout à fait en état de répondre.
Ah bon?
Mais je suis son agent littéraire, Monsieur Vincent.
Oui.
Et je réponds avec enthousiasme à la lettre de Dracula.
Tant mieux.
Cher Dracula, cher comte. Alors là, bravo. Bravo et merci. Votre lettre tombe à point nommé pour Bram. Vous ne le savez pas. Personne ne le sait d'ailleurs. Je me suis arrangée pour que les gazettes n'en apprennent rien. Bram déprime. Bram, Bram, son désespoir, tout au long des jours et des nuits, n'a envie de rien et surtout pas d'écrire. Chaque jour, j'essaye. Allez, viens, on va sortir, voir des filles, rigoler, on va se payer une pinte de bon sang. Rien n'y fait. Chaque jour, je lui chante la même chanson. Non, Bram, t'es pas tout seul, mais arrête de pleurer, arrête de te répandre, arrête de répéter que t'es bon à te foutre à l'eau. Se foutre à l'eau, bon sang. Il n'a que ça à la bouche. Je vous assure, il y a de quoi perdre son sang-froid. Votre lettre, mon cher comte, arrive à point nommé. Vos suggestions vont, j'en suis certain, agir comme une bienfaisante transfusion d'énergie et d'imagination auprès de Bram. Je lui ai d'ores et déjà proposé de s'atteler à l'écriture de cette nouvelle collection, Dracula et compagnie. Comme vous êtes un peu concerné par l'affaire, et bien qu'elle soit secrète, je vous livre ici quelques-uns des premiers titres auxquels j'ai pensé. Dracula, le retour. Dracula contre Zorro. Dracula chez le coiffeur. Dracula se fait limer les dents. Dracula renouvelle sa garde-robe. Dracula achète une Maserati. Dracula fait de la muscu. Dracula change de pieu. Pour ces derniers titres, nous pouvons facilement nous faire financer. Une grande marque de literie, une chaîne de salles de gym sont d'ores et déjà partantes. Imaginez, cher Dracula, les dizaines d'ouvrages que nous pouvons produire, des livres dont vous serez le héros. Dracula à la mer, vous vous y attaquerez à un requin sanguinaire qui trouvera en vous son maître. Dracula contre l'abominable homme des neiges, Dracula contre Rackham le Rouge, Dracula contre Moriarty, Dracula contre le prince de Sang-Mêlé. Nous ferons de vous un personnage positif et adulé, Dracula. J'imagine une série très illustrée, avec peu de texte. Vous seriez toujours sur la couverture dans l'une ou l'autre situation. Aimez-vous Bram, Monsieur Dracula? Si oui, vous accepterez bien sûr de prêter votre image à ces projets grandioses. Mais je n'ai aucune inquiétude à ce sujet. Bon sang ne saurait mentir. Bien cordialement, Monsieur Vincent.
C'est enthousiasmant.
Ah bah c'est très bien, c'est très bien. Bon, j'envoie le contrat, là,
Tout de suite parler d'argent, je vous parle de gloire, Dracula, de gloire.
Non, oui, puis à mon avis,
mais ça fait très longtemps, là, comme ça commence à bien faire, moi je veux bien, mais en plus je suis très content de ce projet, mais je vous envoie quand même les contrats.
Qu'est-ce que vous pensez de ça, Jacques Jouet?
Ça a l'air bien parti, je pense que Dracula va trouver sa place au soleil, très bientôt.
Résus A compatible. Je suis pas compliqué. C'est mon dada, que voulez-vous? Mon violon d'ingre, mon pérou. Je suis un vampire sans malice. Pour sucer le sang, je fais pas de liste. Les grosses, les maigres, les laideurs. Qu'est-ce que ça fait tant que c'est bon? Approche ton coup de mécanique. Fais-toi caline sur ma concubine. Ça vaut pas le coup de faire l'amour. Approche ton approche ton coup de mécanique, fais-toi câline sur ma concubine, ça vaut pas le coup de faire l'amour, approche ton cou.
Le vampire de Louis Chédid. Dernière séquence de ce numéro de Papou dans la tête sur France Culture, les rimes de hasard pour des poèmes à notre façon. C'est le jeu auquel vous participiez en nombre lorsque nous avions une page de jeu sur franceculture.fr. Las, tout a disparu avec le nouveau site et vous ne savez plus où écrire vos poèmes. Je ne peux que vous encourager à rejoindre les quelques rares internautes qui osent y jouer sur notre page Facebook. What else? des mots en vrac, dans un chapeau, des mots rimant deux à deux, rime à l'ancienne pour les puristes, rime un peu brinzingue pour les modernes qui estiment que, ma foi, faire rimer une féminine avec une masculine, c'est très bien aussi. Jacques Jouet et Gérard Mordilla tireront au sort 10 couples de mots rimant entre eux. Ils accepteront, ils refuseront, ils en ont le droit parce qu'après, il s'agira pour eux d'écrire des poèmes avec ces mots. Ces mots ont été pensés par Lucas Fournier, Odile Conseil, Eva Almassy, Jacques Vallée et eux deux, Jacques Jouet et Gérard Mordilla. C'est parti pour le tirage au sort. Jacques Jouet, vous tirez en premier.
Papier,
vous n'avez même pas remué les mots, rien, le premier.
Ah bon,
le
tir de nuit.
Oui.
Ben, j'ai bien fait de pas remuer.
C'est bien.
Je suis bien tombé.
Oui.
Je ne sais pas qui a signé, parce que c'est un 6. Non, je ne sais pas qui signe 6.
C'est moi.
G. C'est un G. C'est G de Mordilla. Enfin, de Gérard.
Et donc, c'est les plus magnifiques rimes qu'on puisse imaginer. Vous êtes bien
ah
d'accord.
Bon
Kama Sutra, Nec plus Ultra.
Ah, c'est pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'il en pense, ouais. Jacques Vallée, notre spécialiste.
C'est parfait.
Vous aimeriez les avoir.
Oui.
C'est raté.
Et c'est pour nous, ces rimes.
Oui, c'est pour nous.
Oui, oui, oui. Vous pouvez très bien tomber sur vos propres rimes, ce qui est le cas.
C'est à moi à nouveau également.
Alors, remuez, oui, encore un petit peu.
Ça, c'est des rimes de Lucas Fournier.
Oui.
Qui sont pas mal aussi.
Il ne veut pas se fâcher.
Slovaque.
Slovaque, oui.
Et comme c'est un S minuscule, ça doit être un adjectif.
Oui,
oui absolument.
Et estomac.
Bon, c'est mieux.
Est-ce que vous prenez slovaque, estomac?
Ah oui, oui, je pense que c'est très bien.
Donc nous avons deux rimes féminines, Jacques.
C'est une rime parfaite.
Ben oui, on peut le dire. Ouais. Après, cinquième et sixième mot, Jacques.
Mais il y aura peut-être après polonais, tchèque, on ne sait pas.
Vous avez le droit de refuser, hein?
Ah, c'est vrai, j'avais complètement oublié de refuser. Là, j'aurais bien voulu refuser, mais non.
C'est de vous?
Non, pas du tout. C'est de Jacques Vallée.
Oui.
Alors, les rimes ne sont pas très, très correctes, mais...
Ah bon? De lui, vous dites ça? Comment est-ce possible?
Faust, le personnage.
Oui.
Faust et Toast.
Ah, ah,
très bien, très,
oui,
très
mais
bien.
C'est une tentative de modernité de la part de Jacques Vallée qu'on doit saluer.
Mais c'est des rimes très rares, quand même.
C'est une tentative réussie.
Quand Jacques Vallée se met à la modernité, ça va loin.
Septième et huitième mot. Et toujours pas de refus. Très
non,
étonnant.
Ils sont très bien, ceux-là.
Ouais.
Robot Nabo.
Robot Nabo, c'est de...
Gigi, je ne sais pas trop.
Jacques Jouet, c'est de vous, alors... Est-ce que
non,
vous...
c'est pas terrible. Hein, par rapport aux autres. Robot...
Non, c'est vrai, c'est pas tout à fait au niveau. Oui.
Ouais.
Mettez-le de côté.
Je suis partisan de les mettre de côté.
Voilà, allez-y.
C'est ce qu'on appelle une autocritique.
Remuez bien, parce qu'il y a des mots de Dil Conseil, des Valmassi.
Non, il n'y a aucun
également.
Mot de Dil Conseil.
Mais si, elle a travaillé, je l'ai vu.
Je ne sens pas. Hein.
Gérard.
Chèque Blanc-Bec.
Chèque Blanc-Bec.
Oui.
Pas un chèque. Un chèque arabe,
un chèque,
un chèque bancaire, et Blanc-Bec.
Ah oui.
Ça rime ça, Jacques.
Ça la rime, non. Là, c'est pas
non,
terrible.
Là, c'est pas terrible.
Là, c'est
non.
Très fautif.
Ouais.
Ah, je sais pas s'il faut accepter ça.
C'est une masculine, une féminine.
Oui. Bah oui.
Et puis ça va pas ensemble. Un
non,
chèque.
Non.
Et un Blanc-Bec. Bon, bah tant pis.
Allez, voilà. Bon, alors toujours septième et huitième.
Avec Faust, ça aurait été très bien.
Il faut pas que ça aille trop bien non plus.
Non, parce qu'autrement c'est trop facile. C'est pas drôle.
Ah. Odile Conseil,
précisément. Ah, voilà.
Primaire, grammaire.
Primaire, grammaire.
Oui, si, on peut.
Ah, si, si.
Si, allez, on le
primaire
prend.
Qui peut être nom ou adjectif, à votre choix, finalement.
Pas refuser la grammaire, c'est pas possible.
Allez, vous tirez votre dernier petit papier et puis on passera le chapeau à Gérard Mordilla.
J'espère que c'est Eva.
Oui,
ça a l'air sympa.
Non, Odile, à nouveau, tablette Colette.
Bah, ça nous fait un personnage féminin, c'est
ça
pas mal.
C'est bien. Pour Faust.
Une tablette.
Et pour le Kama Sutra.
Et pour le tablette.
Elle s'y connaissait.
Voilà.
Tablette de chocolat pour aller avec le toast.
Tablette Colette, allez.
Tablette allez. De la modernité informatique hein, aussi, si vous voulez.
J'aurais préféré Collerette, mais bon, c'est Colette.
Colette, ah oui, d'accord.
Colette.
Colette, ça peut être l'écrivain ou.
Oui, bah oui.
N'importe
oui, c'est
Colette.
Ce que vous voulez, Jacques. Vous êtes un homme libre. Passez
alors,
le chapeau à Gérard Mordilla ah. Qui continue le tirage.
Vous trouvez votre liberté.
Alors, voilà.
Remuez.
Et je sors un petit papier, c'est Jacques Vallée, avec une chose très curieuse, celte et svelte.
Ah, c'est pas mal, c'est très chic ça.
Kama Sutra, enfin celte.
Et svelte.
C'est pas mal.
Très joli, très bonne idée.
Très, très bonne rime.
Ben,
très bien.
On vous décerne le prix de la rime, Jacques. Vous êtes le meilleur dans ce domaine.
Un autre papier. Eva. La Libye, le pays, la Libye et la Libye.
Ah.
Oui, ça marche. Oui, ça nous fait un pays, c'est très bien.
C'est moderne.
Il y en a déjà. Tellement de pays parce que Slovaque n'est pas forcément. C'était un adjectif.
Bon, mais attendez, c'est celui qui refuse qui a tous les droits. Donc, est-ce que Jacques veut la Libye, le pays et à Libye?
Oui, ça fait un calembour, oui.
dit-il d'un air tiède.
Et ça fait une rime féminine avec une rime masculine.
Ça, c'est pas élégant du tout.
Hein. Alors qu'il y a tellement de papier dans le chapeau, quand même.
Mais oui.
Bon. Refusez.
Non, nous ne refusons pas. Ça marche très bien. Alors, Lucas Fournier, ça pourrait être du Patrice Delbourg, arthrose et rose.
Il était en très grande forme. Qu'est-ce qu'il a dit, Jacques?
Pas de maladie.
Alors, à nouveau, huitième couplet de rimes.
Là, je l'ai pris bien au fond. Voilà, Jacques Vallée.
D'accord.
Gaspard, salopard.
Non.
Bon, on a une Colette et on n'a pas...
Gaspard et Colette, ça ne va pas du tout ensemble.
Bon. Alors on recommence pour le huitième couple de mots.
Alors... Un dit le conseil, un verbe plié et allié, le département, l'allié, le verbe allié.
Ça vous va ?
Plié, allié, bah oui, ça c'est très bien.
Plié, allié. Il est en train déjà de construire son poème, Jacques. Ensuite, neuvième couple.
Allez, le voilà, Jacques Vallée. Ah bah là... Machiavel, haut de Javel.
Oh, ça, c'est bien.
C'est vraiment parfait.
On avait besoin d'un prénom féminin en plus.
Et puis avec Faust, voilà.
Machiavel, haut de Javel. D'où vous viennent ces idées, Jacques Vallée?
C'est l'alcool.
Il y en a là-dedans.
Allez, dernier couple de mots.
Alors, Lucas Fournier, encore dans sa veine médicale.
Oh non.
Choral. Fémoral.
Non.
Oh, c'est pas médical, fémoral, c'est...
Ah oui, pour le Kama Sutra. Un peu d'anatomie.
Oui, allez, d'accord. Allez.
Chorale, mais comme une chorale.
Comme une chorale. Ça aurait pu être chloral comme le sirop, mais non.
Bon, bah, est-ce que vous êtes gâtés? Je ne sais pas, je récapitule. Kama Sutra, nec plus ultra, slovaque, estomac, le verbe. Faust, toast, primaire grammaire, tablette Colette, celte, svelte, la Libye, le pays, la Libye, l'apostrophe, plié, allié, Machiavel, haut de Javel, choral, fémoral. Dites-moi, Lucas Fournier, si jamais vous deviez intervenir, jouer avec ces mots, quel serait le couple qui vous porterait vers une histoire?
Je pense que c'est celte et svelte.
Ah oui?
Oui.
C'est un rêve.
C'est déjà difficile à prononcer.
Oui, svelte et svelte.
Oui.
Ça rime bien, effectivement.
Et on partirait de là.
Très bien.
Oui, je ferais un poème orthophonique.
Bon, merci pour votre aide.
En tout cas, vous partez d'où vous voulez, Gérard Mordia, Jacques Jouet. L'essentiel étant que vous arriviez chacun à un poème. Ils écrivent, raturent, jettent, froissent. Difficile d'écrire des poèmes. Gérard Mordia, Jacques Jouet, vous avez posé vos stylos. On a écouté une jolie petite musique en vous entendant écrire. Et maintenant, on va réécouter les mots en jeu, les mots qui rimaient deux à deux, Gérard.
Kamasutra, nec plus ultra. Slovaque, estomac. Faust, toast. Primaire, grammaire. Tablette, Colette. Celte, svelte. La Libye. Plié, allié. Machiavel, haut de Javel. Choral, fémoral.
Alors, quel est le mot qui vous donne toute votre verve poétique?
C'est le mot fémoral.
Ah non, je ne peux pas vous croire, c'est pas possible. Le mot de Lucas Fournier.
Oui, oui. C'est le mot de Lucas. Fémoral, parce que ça a été pour moi une sorte de fleuve qu'il fallait suivre.
Non.
Parce que ça fait moral.
Voilà.
Alors ça, c'est très étonnant. Et donc, vous êtes dit fémoral, et ça y est, j'ai mon histoire. Alors, elle a un titre.
Oui, ça s'appelle Héros nocturne.
Et l'alexandrin, je suppose, parce que vous êtes assez bon dans l'alexandrin.
Je fais des alexandrins, effectivement, avec des rimes alternées.
Très bien. Très joli, on vous écoute.
C'était au bal, un soir, j'ai rencontré Colette. Une brune beauté, grande, mince, svelte, à qui j'osais montrer mes abdos en tablette. Par Satan, me dit-elle, seriez-vous donc un Celte ? D'urgence, j'inventais. Non, je suis Slovaque. Ah, me répondit-elle, moi je viens de Libye. Annonce qui, ma foi, soudain m'estomac, soupçonnant que la belle s'invente un alibi. Démoniaque à mon tour, je devins Machiavel, lui proposant sitôt du whisky pour un toast. « Vous voulez que j'avale un verre d'eau de Javel ?»« Inutile, me dit-elle, vous me plaisez, mon Faust. Suivez-moi, Ephissa, je loge dans l'Allier. Je veux vous présenter les membres de ma chorale, de joyeux morts-vivants que le jour fait plier, mais qui, sûrs, aimeront votre artère fémorale. L'appel était direct, pour ne pas dire primaire. Elle m'enseigna en route le vrai Kamasutra de l'Héros nocturne. J'adoptais sa grammaire. Aimer une vampire, c'est le nec plus ultra.
C'est magnifique, parce que les mots n'étaient quand même pas évidents.
Non, mais fémoral était vraiment magnifique à mes yeux.
Qu'est-ce qu'on lui dit à Lucas Fournier ?
On dit bravo, merci.
Je ne savais pas que les vampires mordaient à la
fémorale.
Cuisse.
Oui, une alternative.
Oh bah c'est pour choix, ça qu'on ne le voit pas au cinéma. C'est plus difficile.
Est-ce qu'il aurait un titre, le recueil de vos poèmes ?
Bien, c'est le titre même du poème qui donne le titre au recueil. C'est Héros nocturne, donc il paraît aux éditions Sans d'encre.
Ah ben bah oui, évidemment, oui.
C'est en fait un recueil de poèmes qui est aussi, je dirais, une histoire en poème. C'est-à-dire que ça va raconter cette histoire de Colette et de ses amours et de ses compagnons. Donc, il y a une sorte d'épopée dans l'Allier.
Ah, on ne changera pas de région.
Non.
C'est très centralisé, oui.
Il y a un très beau poème qui s'appelle « Nu dans l'Allier », par exemple.
Oui, bien sûr. Bon. Gérard Mordillat, votre héros nocturne, figurez-vous, a rencontré au moins un lecteur, en plus de nous et de tous les auditeurs qui l'ont découvert sur France Culture. Ce lecteur, c'est Jacques Vallée, parce que Jacques Vallée fait des piges à droite, à gauche. Il faut bien vivre, il faut manger.
Ben, tout à fait. Hein,
oui. Voilà. Et donc, vous les signez de votre nom. Vous avez un petit pseudonyme. Oui, Jacques Vallée, vous assumez.
Oui, j'assume.
Et vous travaillez dans quel canard ?
Une petite revue de poésie qui s'appelle Le Vernis. Mais comme un nid, là.
Nid de l'oiseau.
Oui.
Ah, moi, je pensais que c'était du vernier.
Non, le vernis.
Non, mais c'est une très bonne idée de titre. Hein. Oui. Vous êtes seul dans...
Oui, tout à fait.
Dans le nid.
Et alors, qu'est-ce que vous en dites ?
Eh ben alors, je fais un petit encadré, Héros nocturne de Gérard Mordillat, parce que c'est un poète que je suis depuis longtemps. Vous connaissez bien le poète Gérard Mordillat, poète à la fibre sociale. Je suis un de ses fans. J'ai lu ses 32 recueils précédents avec un regard militant. Je me souviens de son chef-d'œuvre, Manifestation, qui commence ainsi. C'est un soir dans la rue, j'ai rencontré la lutte. Héros nocturne est le 33e recueil. En découvrant le poème liminaire, Héros nocturne, qui donne le titre au recueil, j'ai pensé qu'il allait continuer dans la même veine. C'était au bal un soir, j'ai rencontré Colette.
Oui.
J'imaginais une jeune ouvrière venant se distraire de sa longue semaine prolétarienne. Mais qu'arrive-t-il à Gérard Mordillat ? 33e recueil, le chiffre 33 lui a-t-il donné la fièvre ? Deviendrait-il mystique ? Dans cet ensemble paru aux éditions Sans d'encre, il relate toutes ses expériences paranormales avec un monde de vampires, de succubes, de sorcières, de revenants, de morts-vivants, de gin tonic. Le poète ne se contente pas seulement d'évoquer ce monde, Il l'expérimente dangereusement, ne craignant pas de faire part de ses expériences charnelles avec ses démons et merveilles, décrivant mieux que dans le Kama Sutra tous les enrichissements amoureux que lui ont apporté ces créatures de l'au-delà, un recueil à mettre dans toutes les mains pour ne pas mourir idiot. Désormais, on ne dira plus à ce sujet le Kama Sutra, mais le Gérard Mordillat, à ne pas manquer.
Ah, c'est très très élogieux.
Mais bien sûr, c'est très bien. Il a très bien senti la dimension sociale de la question, puisque les vampires qui sucent le sang des prolétaires sont les capitalistes.
C'est une très belle conclusion. C'est une chute parfaite. Bon, alors je me tourne vers Jacques Jouet. Vous avez joué avec les mêmes mots. Oui. Est-ce que c'est fait moral aussi qui a déclenché votre imaginaire? Non, pas du tout.
Non, mais je n'ai pas cru une seconde au fait moral de Gérard. c'est un autre. C'est plutôt un des noms propres du...
Colette ?
Du stock, non.
Machiavel ?
Non.
Faust ?
Faust.
Et donc, ça se présente de quelle façon ?
C'est un sonnet de 20 vers.
Oui. C'est déjà très original.
4-4-1 et 4 tercets.
Oui, et un titre.
Le titre, c'est « Quand j'entends le mot « hum », je sors mon « hum ».
Ah oui, ça, c'était pas un mot imposé. Hein.
Quand j'entends le mot « hum », je sors mon « hum ». Oui. Métaphysique, histoire, économie, grammaire, il bafoue le savoir un jour, le docteur Faust. À tout obscurantisme, il veut porter un toast, replongé, émotif, inactif et primaire. Or, c'est dans l'air du temps d'effacer les tablettes. Brûlons le Capital et le Kama Sutra. Déchirez Baudelaire et le Nec plus ultra. Sous les fourches Claudine, on fait passer Colette.
Habile.
Vous croyez qu'il habite au fond de la Libye ? Faust ? Non, c'est un peu trop simple comme alibi. Drancy est francilien et Vichy dans l'Allier. Vous savez, l'encre part d'un coup d'eau de Javel, du jour où l'on ne lira plus que Machiavel, ou d'être trop flexible, on ne peut plus plier, ou depuis le breton jusqu'au lointain slovaque, on ne saura plus rien de la matière celte, vouant tout son esprit à se maintenir svelte, sans plus jamais qu'un berg, qu'un bac vous estomaque, en ravalant jusqu'à l'artère fémorale. Il fallait bien quand même qu'elle y soit. Hein. En ravalant jusqu'à l'artère fémorale du cantor de Leipzig, le plus fameux choral.
C'est bien, c'est beaucoup plus intellectuel.
Oui.
Hein,
plus philosophique.
Plus philosophique, oui, mais c'est Jacques Jouet, quoi. C'est très, très beau.
Je joue de temps en temps, pas de temps.
C'est le haut de gamme. Et alors, est-ce que ça appartient à un recueil ?
Eh bien oui, j'y pensais pas, mais maintenant j'y pense vraiment. Le recueil s'intitulera « L'histoire courte ».
Oui.
Vous savez, il y a cette expression « avoir la mémoire courte », mais
oui.
Il faudrait peut-être remplacer la mémoire courte par « l'histoire courte ». Donc ce sera le titre du recueil.
C'est pas inintéressant, ça.
Merci.
Bon, cher Jacques Jouet, une bonne nouvelle. Lucas Fournier, ici présent, est aussi chroniqueur.
C'est pas vrai.
Si. Et un peu spécialisé dans la poésie.
C'est la chance de ma vie.
Oui. Et donc, il vous a lu, mais lu comme nous. Enfin, nous, on vous a surtout écouté. Mais lui, il a pointé son petit stylo, il a souligné des choses parce qu'il fait un article.
Oui. Je tiens la chronique littéraire d'un hebdomadaire que vous connaissez. Enfin, vous y êtes abonné comme moi, qui s'appelle Valeurs d'avant.
Oui, ça me dit quelque chose. Et vous signez Lucas Fournier.
C'est le magazine de l'actualité et de la vérité, oui.
Oui.
Donc je signe Lucas Fournier et le titre de l'article c'est « Quand je lis un poème de je pense à ».
Ah oui, évidemment, c'est un mot important dans l'histoire de Jacques Jouet.
Oui. Avec Histoire courte, Jacques Jouet nous offre une de ses plus étincelantes contributions à la poésie française du 21e siècle. Tour à tour caustique, charmant, décalé, métaphysique, mais toujours inspiré. Un jeune chef-d'œuvre pour un poète éternel. Fermez les guillemets.
Ouais.
Ceci, cher lecteur, figure sur la quatrième de couverture de l'ouvrage en question. Sans tutoyer les sommets de la critique littéraire française, tels que s'en prévaut l'éditeur de M. Jacques Jouet, qu'il me soit permis de livrer ici un point de vue moins enthousiaste dans l'expression, mais néanmoins tout aussi recevable quant à l'esprit qui l'anime, celui d'un amoureux de la poésie française qui apprécie Jean-François Copé et Sully Prudhomme tout autant que Maurice Sève et Louise Labbé. Disons-le d'emblée, il y a dans le livre de Jacques Jouet une double supercherie. Le recueil, puisqu'il faut l'appeler par son nom, ne doit pas s'aborder avec recueillement, non, mais avec désinvolture.
Ah.
C'est un art dans lequel brille M. Jouet, la désinvolture. Je le cite, « Sous les fourches Claudine, on fait passer Colette.
Oui. »
Ou encore, ailleurs, « Au salon littéraire, on fait parler Cosette. » Dans la chambre du fond, notre vieux coussin... Dans
pète.
La chambre... Oui, notre vieux coussin... Pète, non, pionce. Non, non, vous l'avez mal lu, madame. Voilà, dans le fond d'un vallon, on voit Marie Dorval, et j'en passe aussi celle-ci, dans l'étable, les vaches, dans la bouse endormie.
C'est très, très joli,
oui,
il y a du style.
Mais j'en conviens, cette légèreté est charmante et inventive, ce qui est rare chez nos poètes de ce siècle nouveau. Alors pourquoi s'en défendre ? La seconde supercherie tient au titre « L'histoire courte ». Monsieur Jouet, qui fabrique des sonnets à rallonge, plus 6 vers, soit une augmentation de 42%, tout augmente, omet de préciser que son histoire courte se répète 790 fois dans le livre. 790 sonnets de 20 vers, cela fait 15 800, ce qui pose son bonhomme et pèse son ouvrage. Ces petites préventions passées, ne boudons pas notre plaisir. La rime est belle et le vers est joli. Le pied lui-même est beau. Vous croyez qu'il habite au fond de la Libye. Vous croyez qu'il habite au fond de la Libye. Vous croyez qu'il habite au fond de la Libye. Il y a chez Jacques J. le sens poétique de mm-hmm, la musique de mm-hmm, la distance gracieuse de mm-hmm, et aussi, concédons-le, une métaphysique de l'hédonisme où les deux grands Michel et Alain ont trouvé un maître qui les surpasse. La lecture de l'œuvre de Jacques Jouet impose donc le respect et le silence. Un petit codicille. À l'heure où nous finissons cet article, nous apprenons que notre poète a cédé la totalité de ses textes pour une adaptation scénique confiée à Benjamin B. Nous préférons livrer à nos lecteurs cette information accablante sans la commenter.
Oh ben, ça peut être intéressant comme rencontre, non ? Bon, c'est extrêmement flatteur.
Vous trouvez ?
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Tressart avec Anne de Belchin et Bernard Laniel. À podcaster sur franceculture.fr pour une réécoute à l'heure de votre choix. Et puis abonnez-vous, c'est simple et c'est gratuit. Et puis rejoignez notre bande sur la page Facebook des Papous pour la connivence, les suggestions et commentaires. On y est si bien ensemble. On se retrouve dimanche à 12h50. Au revoir. Passez un bel après-midi bien au chaud à l'écoute de France Culture. Vous y serez en très bonne compagnie.